Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 567 du podcast Touchdown Actual. On était très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast NFL. À mes côtés cette semaine pour débriefer les matchs de la 17e semaine, il y a Lucas Vola. Bonjour Lucas.
Salut Alain et salut tout le monde.
C'est toujours en t-shirt, il fait toujours aussi chaud dans le sud ou c'est chauffage fort ?
Non, non, ni l'un ni l'autre, c'est pas chauffage fort du tout, sobriété énergétique oblige hein, forcément. Non, et puis il fait pas froid quand même, on va pas se mentir, bon. Il fait pas froid, on est bien au-dessus de la barre des 10 degrés.
Bonne année Lucas au fait, on s'est pas
oui, c'est vrai, bonne année Alain et puis bonne année tout le monde, bonne année messieurs.
Rebonne année à Raphaël à qui on s'est souhaité bonne année hier.
Tout à fait, ben rebonne année à tout le monde et bonne année à Lucas.
Bonne année Raphaël.
Messieurs, on a un programme un peu particulier, évidemment un peu bouleversé cette semaine. On va parler des Giants de retour en playoff, des Jets qui n'iront pas en playoff, des Lions qui sont toujours en vie, les Patriots et les Dolphins aussi. On revient sur toute la semaine 17 dès maintenant, mais évidemment, après le petit interlude, on va commencer avec ce qui s'est passé dans le match entre les Bills et les Bengals.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
On commence donc avec ce qui est malheureusement l'actualité principale en NFL ce mardi soir où on enregistre, le 16e et dernier match de la 17e semaine de la saison régulière NFL ne s'est pas terminé. Il opposait les Bills et les Bengals. Il a été arrêté dans le premier quart-temps alors que Cincinnati menait 7-3. C'est évidemment anecdotique. Les Bengals étaient en attaque lorsque Damar Hamlin, le safety des Bills, a pris un coup, un plaquage directement dans le cœur et s'est écroulé après s'être relevé pendant vraiment quelques secondes. Il s'est écroulé, un arrêt cardiaque pour lui. Il a été ranimé sur le terrain, emmené à l'hôpital dans la foulée. Ce qu'on sait au moment où nous enregistrons cet épisode, ça n'est pas grand chose malheureusement, c'est que ses signes vitaux seraient de retour à la normale, qu'il a dû être endormi pour être intubé. Et à l'heure actuelle, tout ce qu'on sait, c'est que son état est stable. Visiblement très très préoccupant. On enregistre à un moment où la NFL est pour ainsi dire à l'arrêt, hein, messieurs, c'est très très rare, mais toutes les conférences de presse de ce mardi ont été annulées en NFL. Il n'y a pour ainsi dire pas d'actualité. Voilà, il ne se passe rien, hein, pas de communication, pas de. Je ne sais pas s'il y aura des entraînements d'ailleurs au moment où on se parle, c'est une autre chose qui se passera un petit peu après notre enregistrement. Messieurs, il n'y a pas grand chose à dire, on en parle parce que c'est très factuel. Mais c'est un choc qui paraît anodin sur le coup. Ça ressemble un peu à la faute à pas de chance, entre guillemets. Mais ça nous rappelle aussi la nature de ce sport, quoi.
Oui, en tout cas, c'est un choc comme on en voit des dizaines et des dizaines par match. Donc c'est vrai que c'est difficile. Comme tu dis, c'est la faute à pas de chance, c'est tombé sur lui, malheureusement. C'est vrai que c'est très triste, ça pose beaucoup de questions sur la suite. Bon, déjà pour lui, pour les Bills, pour le calendrier. C'est vrai que ça, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation et le premier est énorme et le principal sur sa santé, mais surtout, et puis il y a aussi tous les autres points d'interrogation dont on n'a même pas les réponses aujourd'hui. Peut-être que les gens qui écouteront ça auront des réponses, pas sûr. C'est vrai que ça laisse beaucoup de questions.
Oui, c'est pour ça qu'on précisait bien et que je vous ai bien fait un laïus sur tout ce qu'on sait au moment où on enregistre. Vous écoutez le podcast quelques heures plus tard, peut-être qu'il se sera passé des choses, on espère les plus positifs possibles. Raphaël, encore une fois, on n'est pas médecin, on n'est pas les programmateurs de la NFL, donc aujourd'hui on n'a pas de réponse à apporter aux gens, on ne va pas débattre dans le vide. Encore une fois, pour toi, là on est plus dans les sentiments personnels, mais encore une fois, c'est plus un rappel de ce qu'on regarde qui est un jeu dangereux.
Oui, c'est ça. Effectivement, jeu dangereux. On avait vu quelques années le choc que Ryan Shazier avait subi, qui pareil avait été assez compliqué pour lui derrière. Enfin, effectivement, c'est sport compliqué, sport de contact où des fois il peut se passer des choses particulières. Le corps peut réagir de manière aussi particulière. Voilà, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'on lui souhaite le meilleur pour la suite, et voilà.
C'est ça, je crois que malheureusement c'est à peu près tout ce que nous on peut vous livrer. On n'est ni médecin ni programmateur. Tu le disais bien, Lucas, ça pose aussi des questions en termes de calendrier. La NFL est sûrement en train en ce moment de se demander si ce match va. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs il reprendrait là où il en était, ou alors est-ce qu'il reprendrait de zéro, c'est une autre question. Mais en tout cas, est-ce que ce match reprendrait à un moment ou un autre? Est-ce qu'il va être décalé? Est-ce qu'on va décaler d'autres matchs? Tout ça, vous aurez les réponses sur le site. Évidemment, tous les détails seront sur le site au fur et à mesure qu'on les apprendra, et on en parlera éventuellement dans les autres émissions à venir, si on a plus de détails à ce moment-là. Encore une fois, ce sont malheureusement des choses qui arrivent dans les sports de contact, pas que le football américain d'ailleurs, c'est arrivé dans d'autres sports ces dernières années. Encore une fois, on souhaite le meilleur à Damar Hamlin, et évidemment beaucoup de courage à tous ses coéquipiers, parce que ça n'a pas été une soirée facile pour eux d'assister à ça non plus. Donc on imagine que le choc est immense, Lucas.
Oui, surtout que c'est difficile de parler de ça maintenant, mais forcément on est un peu obligé de parler du jeu et du sport, mais on espère que tout va bien se passer pour lui, mais ça peut avoir des effets sur cette équipe là sur les Bills, parce que c'est extrêmement choquant ce qui arrive. Ça, je sais pas pour vous, mais ça choque déjà les images quand on est derrière un écran et que ça se passe à des milliers de kilomètres. Alors j'imagine pas, quand on connaît la personne, quand ça se passe devant nous. Et comme tu le dis, ça est arrivé dans d'autres sports, et ça peut avoir deux effets, regrouper l'équipe et peut-être jouer pour lui, entre guillemets, même s'il va bien, ou peut-être déstabiliser l'équipe, c'est arrivé, et finir une saison un peu compliquée. Je suis obligé de parler un petit peu de ça, je sais que c'est un peu futile à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça compte, et ça va compter pour les Bills dans cette fin de saison.
Non, mais c'est vrai que tu le disais bien. Alors après, on va pas faire tous les exemples, mais dans le football, alors il y avait pas de choc, mais il y avait le cas de Christian Eriksen, hein, qui avait eu un arrêt cardiaque notamment. Il y a eu Ryan Shazier, donc tu le disais, Raphaël, qui a été paralysé. Je sais que je parle sous ton contrôle, Lucas, mais je crois que dans le rugby, avec les commotions, il y avait eu aussi des images parfois un peu difficiles.
Il s'est passé aussi quelque chose de terrible à Nice, quelqu'un qui est parti dans le coma et paralysé. Ça a pour le coup déstabilisé beaucoup l'équipe, parce que c'était quelqu'un de très proche de tout le monde, et ça a déstabilisé énormément l'équipe. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je dis que ça peut avoir des effets totalement contradictoires selon les joueurs, selon les personnes, et quoi qu'il arrive, ça laisse pas indifférent.
En tout cas, ça fait mettre en perspective. On va essayer, malgré tout, encore une fois, il y a une chape un peu de plomb sur toute la NFL et beaucoup d'incertitudes de partout aujourd'hui. Malgré ça, on va avancer, on va parler de ce qui s'est passé, on va parler des matchs, on va avoir aussi, on va avoir un peu le sourire malgré tout, parce que il faut continuer, et on va parler des Giants et des Colts. On va parler playoffs, puisque les Giants l'emportent 38-10 et se qualifient pour les playoffs. C'est une première depuis 2016 pour New York. Ils ont écrasé des Colts qui étaient complètement à la rue une nouvelle fois, 24-3 à la pause. C'était déjà plié. Quoi qu'il arrive d'ailleurs, les Giants seront tête de série numéro 6, donc il y a peu de choses qui bougent aussi de ce côté-là. Les stats sont impressionnantes. Alors on l'a dit, hein, les Colts, c'est pas la grande forme en ce moment. Daniel Jones, 177 yards, 2 touchdowns à la passe, plus 91 yards au sol, 2 touchdowns à la course. Le jeu au sol d'ailleurs qui gagne 217 yards au total. on dit qu'ils sont forts ou qu'ils ont fait leur job contre une équipe qui était quand même à la dérive, qui perd Nick Foles, là aussi sur une blessure assez impressionnante, hein, d'ailleurs. Raphaël, c'est quoi ? C'est le renouveau des Giants ? Ou alors, bon, là, c'est surtout qu'ils ont fait le job, quoi.
C'est, j'ai envie de te dire que c'est un peu les deux. C'est forcément le renouveau des Giants parce qu'il y a quand même cette place en playoff obtenue après 6 années. On l'a quand même dit toute la saison, un match en NFL n'est jamais tout à fait gagné à l'avance. Il faut malgré tout entrer sur le terrain et aller le gagner. Et ils l'ont fait de bonne manière, en étant assez impérial, on va dire. Et ça faisait quand même aussi longtemps que New York n'avait pas dominé facilement des mauvaises équipes, j'ai envie de te dire. Donc le fait qu'ils soient en mesure de dominer une mauvaise équipe, à quelque part, ça signifie qu'ils ont progressé. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc j'aurais envie de te dire, c'est un peu... En tout cas, c'est le début de quelque chose. Les fondations sont vraiment intéressantes posées par Brian Daboll. Maintenant, il faut continuer à construire autour. Cette année, là, pour moi, la mission, elle est déjà plus que remplie sur cette année. Et tout ça n'est que du bonus sur de l'expérience en play-off, quoi.
Lucas ?
Oui, je suis totalement d'accord.
Sur ce match, il n'y a pas photo, donc on est plus dans le constat, hein, j'ai l'impression.
Oui, non, mais c'est sûr. On voit le score 38-10, en effet, et ils n'ont jamais tremblé. Mais c'est ça l'information pour moi. Raph l'a bien dit, c'est qu'ils ne tremblent jamais. Ils arrivent à battre une équipe qui est bien moins bonne. C'était annoncé. Mais depuis le début de la saison, les Giants gagnaient, mais parfois gagnaient un petit peu difficilement ou gagnaient sur une possession ou dans les fins de match. Là, ils se sont assurés de la sérénité. Ils se sont assurés une place en play-off. Et ça peut être que bénéfique pour eux parce que, comme l'a dit Raph, le contrat est totalement rempli parce que qui aurait cru qu'ils se qualifient en play-off en plus une semaine avant la fin de la saison régulière, c'est même pas à la dernière minute. Mais surtout, cette équipe-là, elle arrive en pleine confiance, elle joue bien des deux côtés du ballon. Alors certes, c'était pas forcément contre une bonne équipe, mais elle joue bien des deux côtés du ballon et elle va aller en play-off. Et connaissant Brian Daboll, en tout cas en voyant ce qu'il fait, je suis pas sûr qu'elle va aller en play-off pour perdre. Donc elle va aller en play-off pour accrocher quelque chose. Et l'équipe qui va les jouer, je pense que ça sera pas une partie de plaisir. Alors, ça sera peut-être une défaite pour les Giants, mais je pense qu'ils vont y aller avec le cœur et avec du caractère comme ils le font depuis le début de la saison.
Je commence à me demander si on n'a pas trouvé les Giants 2.0, c'est-à-dire que on a Eli Manning 2.0, il a la même tronche, et on a Tom Coughlin moderne, c'est-à-dire pragmatique, mais qui n'est pas un militaire, celui-là, il a des techniques modernes. Et donc tu te dis, ils vont être embêtants, ils vont faire des saisons à 10-6 comme ça, 17 tous les ans, et il y a une année où ils vont prendre feu en play-off.
Pourquoi pas ? En tout cas, ça peut être un scénario un peu idéal pour eux. Alors après, je trouve pas que Daniel Jones ait tout à fait les mêmes qualités que Eli Manning ou les mêmes défauts.
Non, c'est une évolution aussi.
Il est clairement plus mobile que ce qu'était Eli Manning. Je veux dire, c'est quand même le jour et la nuit à ce niveau-là. Il est aussi, et pourtant, c'était pas la plus grande qualité de Manning, mais il est aussi un peu moins précis quand même encore à la passe. Hein.
Clairement.
Bon, voilà. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est des fondations solides et un quarterback qui prend feu au bon moment pour pousser l'équipe. Ça peut être la clé. Rappelons tout de même que Daniel Jones n'est pas sous contrat pour l'an prochain de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il y a quand même une incertitude sur l'avenir. En tout cas, ils n'ont pas mis son option de cinquième année. Donc,
c'est ça.
Et il fait peut-être le meilleur match de sa carrière ce week-end. Alors, c'était pas forcément contre une grosse défense, mais comme tu l'as dit, là, il a prouvé. Il est peut-être en mission, en effet.
Justement, Lucas, il y a un truc à sauver chez ces Colts sur ce match.
Là. Sur ce match en plus, non, pas grand chose, ça fait quelques semaines quand même. Je pense que là ils sont vraiment en grande difficulté. L'entraîneur, c'est compliqué. Je réfléchis, mais il n'y a pas grand chose. Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont vraiment à la ramasse. Franchement, je pense que la fin de saison ne peut pas arriver assez rapidement. Enfin, il faut vite que ça arrive, ouais.
Clairement, oups là, excusez-moi. Voilà, les auditeurs ne l'auront peut-être pas eu, mais il y a du son qui est parti de mon ordinateur dans vos oreilles. Donc, on passe aux Lions 41, Bears 10, un autre gros carton. Les Bears menaient 10-7 à la fin du premier quart. Derrière, ils ont pris 34 points de suite. Détroit qui gagne plus de 500 yards. Jared Goff qui distribue à une dizaine de receveurs différents. Pareil, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. On n'a pas eu des matchs, d'ailleurs, sur des scénarios très passionnants cette semaine. On va beaucoup être aussi dans les conséquences plus que dans le jeu, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que là, les Lions sont impressionnants quand ils tournent, en fait, Raphaël. Là, on a eu un bon match des Lions, c'est-à-dire qu'il y a 265 yards au sol, un Jared Goff qui est efficace, et voilà, et c'est ce qu'ils peuvent faire quand ils sont dedans.
Ouais, c'est ça. Alors, ils démarrent un peu difficilement. Il y a un premier quart où ils sont derrière au score par rapport à Chicago et où la défense, en fait, se fait avoir par Justin Fields et notamment son jeu de course. Donc, ils démarrent un poil lentement, mais c'est vrai qu'une fois que qu'ils ont réussi à mieux contrôler Justin Fields et à laisser encore plus de temps à Jared Goff pour lancer. Bon, bah, on a revu ce que cette attaque des Lions fait, en fait, quasiment depuis le début de saison. Objectivement, les points, en moyenne de points, ils sont dans les meilleurs de la Ligue cette année. Il y a eu un petit coup de mou semaine 6 à 9, on va dire, 6-10. Mais sinon, globalement, c'est quand même assez de haute qualité ce qu'ils font. Donc oui, c'est là encore, c'était le meilleur scénario, on va dire, Lions qu'on pouvait voir.
Lucas, ce qui est aussi impressionnant sur ce match, c'est pas tant leur attaque, enfin elle est impressionnante mais on la connaît. Il y a aussi une défense qui a un très gros pass rush avec 7 sacs. C'est aussi ça qui est en train de devenir une des satisfactions du côté de Détroit. On sent qu'il y a un jeune pass rush là qui est en train de se créer.
Alors oui, c'est vrai, ils arrivent à maintenir Justin Fields et toute cette attaque à 10 points. En effet, ils sont un peu surpris au début mais ils se reprennent bien et il y a des jeunes joueurs qui commencent à montrer le bout de leur nez. Maintenant, je pense que c'est puisque c'est de ça dont on parle, c'est quand même léger pour les playoffs, parce que c'est un peu l'objectif des Lions. Eux ne sont pas encore qualifiés, mais ils peuvent encore l'être. Et je pense que c'est léger. C'est vrai que, et c'est ce qui me fait dire que je préférerais, si je suis une équipe de haut de tableau en NFC, jouer les Lions que jouer les Giants. Parce que, en effet, cette attaque peut prendre feu. Mais globalement, les gros mastodontes de cette conférence peuvent rivaliser dans un match qui peut finir avec énormément de points et faire le bon stop au bon moment. Et cette défense-là ne m'inspire pas encore énormément confiance. C'est vrai que c'est mieux, mais ne m'inspire pas confiance.
Sur ce match, c'est pas mal quand même, je te trouve un peu dur.
Non, mais sur ce match, bien sûr, mais encore une fois, on parlait des Giants et on parlait de l'opposition des Giants face aux Colts tout à l'heure. C'est vrai que là, l'opposition, les Bears, certes, il y a Justin Fields, certes, qui parfois peut prendre feu, mais tout de même, on n'est pas sur une attaque qui est impressionnante. Alors oui, c'est sûr qu'ils ont réussi à maintenir à 10 points et c'est remarquable. Maintenant, j'attends de le voir contre d'autres équipes et notamment en playoff, et j'ai du mal à l'imaginer. Alors après, il y a de la qualité, ça c'est sûr, il y a du talent et c'est plutôt bien coaché. Ça, je leur enlève pas.
Raphaël, du côté de Chicago, Lucas l'a bien dit, bon, c'est aussi une faillite de la ligne offensive peut-être qui fait qu'ils prennent 7 sacs.
Ouais, la ligne offensive, effectivement, met en difficulté Justin Fields, qui des fois, lui aussi de son côté, peut faire quelques erreurs d'appréciation ou peut-être sortir, parce que sa ligne offensive, est, des fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. La ligne offensive laisse peu de temps au quarterback, le quarterback anticipe trop de pression parce qu'il sait que ses coéquipiers vont craquer, se met en position en difficulté, et puis le sac finit par arriver. Donc, un peu tout le monde dans la mouise, j'ai envie de dire. Donc ouais, la ligne offensive, on l'a vu cette saison, est un vrai problème à Chicago. Après, il y en a quand même d'autres. Chicago va devoir se poser quand même les bonnes questions sur offensivement, comment mieux faire pour porter Justin Fields, clairement.
Fields n'est pas exempt de tout reproche quand même, 7 sur 21, c'est un match très difficile pour lui. Il a 132 yards au sol, il est très très fort au début, mais il est pas, tu le disais, il n'est pas exempt de tout reproche. C'est un cercle vicieux, quoi.
Non,
mais je suis d'accord avec toi, je n'ai pas forcément beaucoup plus à ajouter qu'en effet, il avait bien commencé, mais après, c'est la spirale négative, et Raph l'a bien résumé, ça te met dans une difficulté, que ce soit le quarterback ou la ligne offensive.
Les Lions seront dans le coup pour se qualifier dimanche, ils devront battre Green Bay, mais surtout espérer en même temps une défaite des Seahawks contre les Rams, ce qui risque d'être compliqué. On en reparlera largement dans la preview de jeudi matin. Les Eagles 10, Saints 20, deuxième match sans Jalen Hurts, deuxième défaite pour Philadelphie. Lane Johnson n'était pas là non plus, ce qui ne doit pas changer grand chose aux 6 sacs encaissés par. Ce qui ne doit pas arranger, pardon, les. Oh, j'arrive pas à se dire ce que je veux dire. Bref. C'est notamment pour cette raison que Garner Minshew a pris 6 sacs. Voilà, c'est ce que j'essaie d'articuler depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on doit être inquiet pour les Eagles, qui perdent un peu de momentum, à minima, en tout cas, avant les playoffs?
Disons que les blessures commencent à s'accumuler un peu au mauvais moment. Celle de Johnson, tu l'as dit. Hurts qui va revenir, mais avec une épaule peut-être un peu diminuée. Ils ont un de leurs défenseurs aussi qui est sorti en cours de match là. Désolé, j'ai plus le nom en tête, mais ils ont un de leurs sur ce match qui est sorti.
Tu me colles, mais oui, c'est pas. Bref,
trou de.
On va le retrouver. On va le
trou de mémoire là, instantané. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Maintenant, enfin, ce côté-là, blessure est embêtant. Maintenant, là où je serais peut-être encore pas trop inquiet, c'est que malgré ça, il y a des forces qui restent. Le pass rush est encore de très haute volée. Ils ont quand même 4 joueurs à plus de 10 sacks cette saison. C'est la première fois de mémoire que ça arrive en NFL. Ils ont un Miles Sanders qui a été peu utilisé, mais qui malgré l'absence de Lane Johnson est à quasiment 5 yards par, enfin se rapproche des 5 yards par portée. Bref, je trouve que malgré tout, t'as quand même des points forts qui peuvent être encore là en playoff. Et je doute pas que si Hurts est à 100%, le niveau remonte aussi un petit globalement quand même.
Il manque juste Jalen Hurts en fait, Lucas.
Ouais, Jalen Hurts et Lane Johnson, tu l'as dit, parce que c'est lui qui stabilisait beaucoup cette ligne offensive. Il y a eu très peu d'absence sur cette ligne offensive depuis le début de la saison. Je crois que les linemen offensifs ont manqué que deux matchs ou quelque chose comme ça, les linemen offensifs titulaires bien entendu. Donc ça apporte une stabilité. Quand il en manque un de ce calibre là en plus, on voit que ça fait une différence. Alors certes, il y a une ligne offensive toujours qui est bonne autour, mais on a vu que c'était compliqué. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, alors peut-être que inquiet, c'est un grand mot, mais c'est la dynamique. Je suis beaucoup attaché à la dynamique en arrivant au play-off, et c'est vrai que les Eagles étaient la meilleure équipe pendant une grosse partie de la saison, et là la dynamique est moins bonne. Ils avaient trois matchs pour se mettre en confiance et pour attaquer les play-offs tranquillement, avec même une semaine de repos. Ben, là ils vont être obligés de batailler sur cette dernière semaine, et rien n'est gagné pour eux quand on voit ces deux derniers matchs. Donc ils vont aller en play-off, ça c'est sûr, ils auront peut-être même le premier seed, la première place. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup ça sera un peu plus compliqué que prévu, et du coup peut-être avec un peu moins de confiance.
Mais je suis d'accord avec toi, en fait, c'est ça qui me... Alors ça me rassure de t'entendre et de vous entendre, parce que dans la rédaction, il faut le dire quand même, on a un supporter des Eagles avec Victor Roulier, qu'on salue et à qui on fait une bise évidemment. Et en général, dans le premier carton du premier match de la saison, s'ils sont menés 7-0, ils passent en mode « Oh là là, notre saison est terminée, c'est catastrophique, c'est la fin de tout, etc. Mm-hmm. » Donc là, il y a Jalen Hurts qui est blessé, il y a Lane Johnson qui est blessé, etc. Je lui dis « le momentum, il me semble pas fou. » Il me dit « Oh mais non, t'inquiète pas, Hurts revient. » Et c'est bon. Moi je suis un... Ouais, mais tu vois, tu le disais, dans quel état va être son épaule, parce qu'on est en NFL, ça cache toujours des trucs. S'il a raté deux semaines, c'est que a priori c'est un truc qui nous mettrait 3 ou 4 mois à l'hôpital, tu vois.
C'est vrai. Non, après, juste pour préciser, de mémoire, il est plus inquiet par l'absence de Lane Johnson que celle que la blessure de Hurts, voilà, après.
C'est vrai. Bon, mais du coup les deux m'inquiètent.
Je comprends. Et puis il revient, mais on le sait, on a vu notamment d'autres joueurs en NFL, il va falloir qu'il revienne. S'il revient pour les playoffs, il va falloir qu'il revienne à 100% dès le premier match. Il pourra pas se permettre de revenir en milieu de saison comme d'autres quarterbacks ont pu le faire et de reprendre progressivement. Là il faudra qu'il soit à 100% sur un match, parce que sinon c'est gagne ou rentre à la maison, comme disent les Américains.
Ouais, et tu le disais, ils risquent même de perdre la première place de la conférence sur la dernière semaine. Si, alors c'est pas, voilà, ils ont de l'avance et tout ça, mais c'est pas non plus un scénario délirant où ça pourrait arriver. Donc ils se retrouveraient à ce qu'ils doivent en plus jouer la semaine prochaine et très très vite, donc encore une semaine de moins de repos pour l'épaule. Enfin bon, bref, sur ce match en tout cas, les Saints ont extrêmement bien pris les choses en main, notamment avec une très grosse défense, du jeu au sol, manger le chrono. C'était les Saints des bons jours, qui malheureusement disent adieu aux playoffs, hein, à cause de la victoire des Buccaneers dont on a parlé hier. Mais c'était les Saints des bons jours. Je pense qu'on a... Est-ce que c'est un concentré de cette équipe en fait, ce match, c'est-à-dire leur qualité et leurs limites au poste de quarterback?
Ouais. C'est ça. T'as bien résumé la chose. Hein. C'est le front seven dominant qu'on attendait en début de saison. Un Latimer aussi très bon. Et cette défense qui est pas loin de leur avoir permis de remporter les 7 matchs qu'ils remportent cette saison, in fine. Ouais. Une pincée d'Alvin Kamara. Et puis après, voilà, les limites. Bon.
En tout cas, on verra bien s'ils gardent Dennis Allen notamment pendant l'intersaison. On va voir ce qu'ils font au poste de quarterback, parce que là, évidemment, ça semble assez nécessaire, je pense, de faire venir des options supplémentaires, parce que le petit manège Andy Dalton, Jameis Winston, là, a priori, ça a assez duré. Lucas, tu fais quoi? Tu draftes? On fait un petit au revoir à certaines équipes, là, on peut se permettre des perspectives.
Ouais, alors drafté, je sais pas, je me suis pas encore penché sur la draft qui arrive. Et vous,
t'as pas encore ton big board de 200, non?
Non, je laisse ça à ceux qui le font beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que c'est une option crédible. En tout cas, pour juger de ce que je vois actuellement, en effet, il manque un quarterback, mais autour de ce quarterback, c'est pas délirant non plus, parce qu'il y a Alvin Kamara, il y a quelques joueurs, notamment des receveurs, qui peuvent prendre du poids et qui peuvent un peu se développer. C'est vrai qu'on y ajoute un bon quarterback ou un quarterback bac moyen plus, ce qui est difficile pour l'instant à New Orleans, ça fait une équipe et une attaque plutôt correcte. Et c'est vrai que là, il joue bien depuis quelques semaines. Alors c'est dommage qu'il se fasse éliminer peut-être sur un de leurs meilleurs matchs de la saison, mais il joue bien, ça peut donner peut-être de la confiance pour l'année prochaine, mais il va falloir au moins régler ce problème de quarterback, comme tu as dit.
Raiders 34, 49ers 37, après prolongation. Les Raiders ont perdu, mais c'était presque la surprise de la semaine quand même. Ils emmènent les Niners en prolongation avec un excellent Jarrett Stidham. Alors ça, on l'avait probablement pas vu venir. 23 sur 34, 365 yards, 3 touchdowns et 2 interceptions pour Jarrett Stidham. Messieurs, doit-on s'incliner devant le génie de Josh McDaniels, puisque on était tous dubitatifs quand il a mis Derek Carr sur le banc? Bon, bah, Stidham, il est pas mauvais. Il est même bon sur ce match.
Ouais. Bah déjà, qui eût cru que ce duel Jarrett Stidham-Brock Purdy en début de saison, si on avait annoncé ça, nous aurait offert en plus autant de points, plus de 60 points marqués dans ce match-là. Et c'est vrai que Stidham, bah, écoutez, il nous a montré de belles choses. Je trouve que, pour le coup, j'étais le premier à le critiquer cette saison, mais Josh McDaniel a très bien appelé ce match tout de même, ou du moins une grande partie de ce match-là. En tout cas, l'attaque a été plutôt inventive, parce qu'on le rappelle, il jouait contre une des meilleures défenses de la NFL, si ce n'est la meilleure défense, qui n'était peut-être pas dans son meilleur jour, mais en tout cas, il leur met quand même 34 points, avec un quarterback qui était annoncé remplaçant. Donc, c'est vrai que Josh McDaniel, je pense, a une grande part de responsabilité sur ce match-là, même si Stidham a été bon.
Après, faut pas chercher, c'est de notre faute. Hein. On a jinxé Justin Jefferson dans le fauteuil de dimanche en disant qu'il pouvait être MVP, il fait 15 yards. On avait aussi dit Nick Bosa pour être un prétendant. Bim, les 49ers s'en prennent 500 yards derrière. Bon, Raphaël, évidemment, ça demande confirmation, ce Stidham, mais c'est un premier match encourageant.
Ouais, c'est un premier match encourageant. Ce qui est d'autant plus un peu... étonnant, c'est qu'il a, paradoxalement, il a peu pris la pression. Alors, c'était pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur Nick Bosa, mais il y a zéro sac et pourtant, alors la ligne offensive des Raiders est moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison, mais enfin, elle restait quand même une des pas très bonnes lignes offensives de l'année. Et là, il a semblé plus à l'aise derrière cette ligne que Derek Carr, pourtant face à un des meilleurs front seven de la saison, voire le meilleur. Donc c'est vrai que là-dessus c'est un poil étonnant cette capacité de c'est un peu une des surprises de la capacité de Jarrett Stidham à gérer la pression, à être serein derrière sa ligne. Comme Lucas l'a dit, il y a une partie de calling de McDaniels sans aucun doute, mais je l'ai même trouvé assez serein derrière cette poche, plus que ce que Carr a montré jusque-là cette saison. Bien aidé aussi par quelques grosses réceptions de Davante Adams, hein, qui a quand même régalé sur deux, trois actions, parce que le bilan de Stidham pourrait être un peu moins bon sans Davante Adams aussi, sans aucun doute. Mais belle surprise.
Mais même avec
surprise.
Même avec Adams, en fait, il y a une vraie connexion qu'on n'avait pas toujours avec Derek Carr. C'est ça qui est presque.
Pour le coup, Derek Carr, il avait au moins ça. Il avait quand même une bonne connexion. Parfois un peu trop connecté avec Adams, avec la. Parfois il oublie un peu les autres. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Stidham il l'a, ça a bien marché. Et puis c'est vrai que
il l'a eu vite.
Quand on a Adams, ça facilite les choses. Quand on a un joueur capable de faire ce genre d'action, quel joueur. C'est vraiment. Son match est incroyable, mais c'est vrai que c'était beau, et pour le quarterback c'est bien.
7 réceptions, 153 yards et 2 touchdowns pour Davante Adams dont vous parlez. Les Raiders sont marqués à 1 minute 11 de la fin pour arracher la prolongation. Stidham a quand même été intercepté en prolongation. San Francisco gagne sur un field goal. Du côté donc de l'attaque de San Francisco, Brock Purdy 22 sur 35, 284 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Alors, il y a Purdy qui fait un match solide, mais qui est quand même très très bien aidé par un certain Christian McCaffrey qui gagne quasiment 200 yards en cumulé sur course et réception. Là, pour le coup, c'est quand même McCaffrey la star sur ce match, Raphaël.
Oui, c'est effectivement McCaffrey chaud pour le coup. C'est un petit peu ce qu'on espérait ou ce à quoi on s'attendait quand les 49ers envoient un tour de draft pour lui pendant la saison. C'était un peu ce genre de scénario auquel on pouvait s'attendre. Des matchs sur lesquels son talent peut... Des matchs qui peuvent...
On a du mal aujourd'hui.
Des matchs qui peuvent basculer grâce à son talent. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc c'était ça... Après, si je peux émettre une toute petite critique, je pensais qu'on le ferait un peu moins courir ou qu'on partagerait un peu plus les portées. Alors bon, il est très efficace, il est à 6 yards par portée, mais je, dès que je vois McCaffrey avec trop de ballons, ça, j'ai toujours un petit peu peur. Donc voilà.
Le
après,
stress. Le stress.
Voilà.
Bon, c'est pas mal cette attaque, Lucas, des 49ers. Purdy, en tout cas, il est solide dans son rôle. Hein, il continue.
Oui, clairement. Et puis Deebo Samuel pourrait revenir la semaine prochaine ou en tout cas pour les playoffs. Et c'est ce qui rassure dans ce match-là. Certes, ils sont accrochés. Certes, ils doivent passer par la prolongation. Mais c'est vrai que dans notre tête, les 49ers, c'est une équipe défensive qui avant tout va gagner le match en défense et qui va peut-être mettre assez de points pour gagner. Là, ils ont prouvé, face à une défense certes des Raiders pas incroyable, mais qu'ils pouvaient aller mettre 37 points, et que sur un match de playoff où la défense est un peu moins bonne, ce qui ne devrait pas arriver souvent tout de même, bah, cette attaque-là, elle est capable, avec George Kittle, avec Christian McCaffrey, avec un Purdy qui est plutôt bon et qui peut ouvrir son bras, d'aller gagner des matchs avec l'attaque. Et on le sait qu'en playoff, bah, il faudra gagner avec ce qu'on peut, ce qu'on a, ce qu'on nous présente, et ils ont montré qu'ils sont capables de le faire de ce côté-là.
Petite stat un peu insolite, on parlait tout à l'heure de Jared Goff qui touchait une dizaine de receveurs. Là, pour le coup, il en a touché que 5, Brock Purdy, et les 49ers ont plus de joueurs qui ont couru avec le ballon que de joueurs qui ont été ciblés à la passe. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui ont couru et 5 qui ont capté des ballons. Ce qui est quand même probablement pas hyper courant. Voilà pour la première vague de match, petite pause et le reste.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On part du côté de la conférence AFC pour parler un petit peu de la course aux playoffs de ce côté-là. Et les Ravens 13, Steelers 16, le minimum, mais juste ce qu'il fallait. Les Steelers ont marqué les 10 derniers points du match pour l'emporter contre les Ravens, grâce notamment à un bon Kenny Pickett en fin de match. Il a lancé le touchdown de la gagne à Najee Harris à 56 secondes de la fin. Encore des progrès pour Pittsburgh, encore du bon coaching. C'est assez incroyable cette capacité à gagner des matchs en marquant que 16 points, hein, quand même, il faut le souligner. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours, comment on dirait, Raphaël, bien coaché, équilibré, propre.
Oui, effectivement, bien coaché, notamment défensivement. J'avoue que je reste toujours un peu sceptique sur l'attaque. Je suis quand même pas impressionné par les progrès de l'attaque. Alors, à la limite, la ligne offensive progresse et le jeu au sol est un peu mieux. Après, dans le jeu aérien, encore une fois, il l'emporte à la dernière seconde. Il n'y a qu'un touchdown lancé. Enfin, tu vois, je trouve que c'est bien coaché sur une partie du terrain. Sur l'autre, je reste encore un peu modéré.
Bon. Alors, le dernier drive fait 80 yards, il n'y a pas grand-chose avant, ouais. Mais sur ce dernier drive, Kenny Pickett est à 6 sur 9 pour 67 yards, c'est son troisième comeback dans le quatrième carton cette année, je pense que c'est son plan en fait, c'est de faire des records de comeback dans le quatrième. C'est vrai que c'est assez bizarre cette équipe et son fonctionnement, Lucas, c'est des éclairs très rares. Au moins, on peut dire que, comme le disait Raphaël, il y a la ligne offensive et le jeu au sol, 198 yards au sol, on retrouve un peu l'identité Steelers Originals, quoi. Ça court et ça défend.
Ouais, et puis je trouve Raph un peu dur. Alors certes, cette attaque-là, elle n'est pas incroyable, mais je trouve qu'il y a des progrès tout de même. Pickett, il a pas commencé la saison, il en est à très peu de matchs. Je sais plus exactement combien de matchs il a, mais il a pas une saison complète derrière lui. Donc ça progresse un petit peu. Il y a Pickens aussi le receveur. Najee Harris, dès qu'on lui donne un peu de ballon et un peu d'espace, c'est pas mal. c'est sûr que c'est pas incroyable et ça ne marque que en effet 16 points. Et heureusement que ça suffit, et on a l'impression que cette équipe vit dans un miracle permanent. Mais je trouve en tout cas que c'est un petit peu en progrès. C'est de mieux en mieux. Ça part de très loin, mais c'est mieux qu'en début de saison.
Franchement, j'entends, mais je trouve qu'on est quand même globalement très. Je sais pas si c'est l'effet Pittsburgh, mais très gentil avec Pickett. C'est quand même 6 touchdowns lancés en 12 matchs. Enfin, il y a beaucoup de quarterbacks pris au premier tour qui auraient un bilan de 6 touchdowns lancé en 12 matchs, on n'aurait pas tellement cet avis-là. Enfin, alors, il y a des circonstances atténuantes. Hein. Matt Canada, son coordinateur offensif, en est une. Mais
ouais,
bon,
puis tout ce qu'il y a autour aussi. On est les premiers à dire que la ligne offensive est un peu mieux, mais a jamais
ouais,
été
mais il a
incroyable.
Pas la plus mauvaise escouade de receveurs dans les quarterbacks de la ligue non plus. Hein.
Je trouve qu'il y a
un peu de gentillesse, mais peut-être qu'il me fera mentir moi, et je lui souhaite en tout cas.
Disons que c'est pas une cuvée très impressionnante pour les quarterbacks, il en est le symbole, quoi. Parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, en vrai, un quarterback du premier tour, il pourrait porter l'équipe un poil plus que ça, ça reste très léger. Je vais regarder la stat qui est pas mal en termes de coaching, etc. Ils sont quand même à 10 sur 16 sur 3ème tentative sur ce match, ce qui est quand même assez impressionnant. Du côté des Ravens, on a gagné que 240 yards. Ah, tu vois aussi, on est enthousiaste, Raphaël, parce que il faut regarder l'attaque d'en face. Voilà, ouais. on a aussi composé avec ça. Il y a quoi, genre 350 yards pour Pittsburgh, il y en a 240 en face. C'est leur 5e match de suite à moins de 17 points. Et c'est un peu le néant offensif, mais en même temps... Alors, on rappelle qu'ils sont déjà qualifiés pour les playoffs, hein, les Ravens, ce qui est un peu triste d'ailleurs en soi quand on voit leur état actuel. On parlait de momentum tout à l'heure pour Philadelphie, celui-là est quand même gratiné. Mais parce que c'est le néant offensif, en fait, sur ce match-là. Ils essayent de courir, il y a un peu de Tyler Huntley, mais... C'est très très compliqué à regarder. Lucas, je vois que tu partages moi.
Oui, je suis totalement d'accord. Bon, Lamar Jackson n'était pas là, on le rappelle, et à mon avis, va falloir qu'il revienne vite. En tout cas, il faudrait qu'il revienne parce que c'est vrai que sans lui, c'est très compliqué. Ils ont essayé au sol, c'est un peu leur habitude. Et on va dire que les Steelers ont bien défendu au sol, ce qui n'a pas toujours été le cas dans cette saison. Ils les ont bien maîtrisés. À partir du moment où on enlève le sol comme arme vraiment principale aux Ravens, il ne reste pas grand-chose derrière, surtout quand Lamar Jackson n'est pas là. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et en effet, ils arrivent en play-off avec un momentum vraiment, vraiment compliqué. Ils vont certainement jouer à l'extérieur. Il va falloir beaucoup de caractère pour accrocher quelque chose.
Lucas, un mot à ajouter. Raphaël, un mot à ajouter sur les Ravens.
Non, maintenant, eux, ils n'ont plus qu'à espérer que Lamar Jackson revienne cette saison. Parce que c'est quand même un peu étrange, hein, la communication autour de Jackson et de sa blessure. On ne sait pas vraiment ce qu'il a, quel est le problème. Je pense qu'en plus, tout le contexte autour de la négociation de contrat doit peut-être pas aider à ce schmilblick. Et clairement, déjà qu'avec Lamar Jackson, ils ont peu de chances de faire un coup en playoff, mais alors là, sans lui, je pense que c'est premier tour et au revoir. Hein,
je te rejoins sur la bizarrerie de la chose, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des blessures et des machins. Là, dès lundi, John Harbaugh relaissait entendre que finalement, pour cette semaine, ça risquait de coincer aussi, en tout cas, avec
très bizarre.
Pas.
Sincèrement, je...
donc, a
ça,
priori,
ça sent... moi je trouve que ça sent pas bon.
18.
Pour cette saison, non, je parle. Oui, pour cette saison, je...
Ouais. Je suis assez d'accord aussi. Un peu suspect, tout ça. Les Patriots sont derrière dans la course au play-off. 23 pour eux, 21 pour les Dolphins. Alors là, on arrive dans la course au play-off de l'AFC, je le disais, parce que les Steelers ont gagné et sont toujours dans la course au play-off. Mais on donnera les scénarios dans l'émission preview. Ils ont besoin que ça perde devant maintenant pour se qualifier. À la lutte devant eux pour le dernier strapontin en playoff, il reste les Patriots et les Dolphins. Les Patriots ont battu les Dolphins 23 à 21 et ils auront leur destin entre les mains la semaine prochaine. La difficulté, c'est qu'il faudra jouer Buffalo, mais ça encore, on y reviendra dans l'émission de jeudi. La défense des Patriots, en tout cas dans ce match, elle a continué de porter l'équipe. Interception retournée pour un touchdown par Kyle Duggar pour passer devant dans le troisième carton. Tyreek Hill et Jalen Waddle limités à 107 yards à eux deux. Bill Belichick qui reste quand même un maître des matchs défensifs, Lucas.
Oui, clairement, encore une fois, depuis le début de la saison, c'est un peu la constante, encore que, mais cette défense-là, elle est impressionnante, elle porte cette équipe, et comme tu l'as dit, en plus, elle arrive à marquer des points, faire changer le momentum, l'interception de Kyle Duggar est assez symptomatique sur ça, et puis surtout, Miami qui a essayé vraiment de mettre en place son jeu au sol, et les Patriots avaient vraiment tout réussi à tout contrôler, parce que tu as parlé des deux receveurs, mais ils ont bien contrôlé le jeu au sol aussi, ça a laissé très peu de place à une attaque de Miami qui en plus avait son quarterback numéro 2 puis 3. Donc cette défense-là, en effet, elle gagne encore une fois ce match-là, même si derrière c'est les Patriots marquent 24 points, tu l'as dit, je ne me rappelle plus exactement, mais
23
points, voilà, mais il faut enlever les 6 de la défense, c'est vraiment la défense qui gagne ce match pour moi.
C'est incroyable, Raphaël, c'est leur 7e touchdown défensif cette saison, les Patriots. C'est la première fois depuis les Jaguars de 2016, si je ne dis pas de bêtises, que ça arrive. C'est vraiment une performance rare et c'est vraiment ce qui les porte.
Ouais, c'est ce qui les porte, cette défense. Et comme tu l'as dit, Bill Belichick, parce que si tu regardes leur calendrier, les victoires qu'ils ont eues et les défaites qu'ils ont eues, dès qu'il y avait une équipe à leur portée, ils l'ont battue. Et les défaites, ce n'est que contre les effectifs plus talentueux des deux côtés du ballon, in fine. Et parce qu'il y a un moment, je pense que tout grand coach que tu es, il y a une limite de talent en NFL que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas répéter des exploits continuellement contre les meilleurs de la ligue. Enfin, tu peux aller chercher un match par-ci, mais tu ne vas pas en chercher 8. Donc, c'est clairement à ce niveau-là que ça joue, à la défense et à Bill Belichick. Je pense qu'ils vont... Alors là, j'anticipe à moitié sur du jeudi, à moitié sur un bilan de saison, mais ils risquent de longtemps regretter cette défaite contre les Raiders avec cette action what the fuck qu'empêche d'aller en prolongation. Parce que dans la course aux playoffs, celle-là, elle fait mal. Hein, parce que si...
Et puis il y a le fumble aussi face aux Bengals dans les dix derniers yards à la fin qui aurait pu permettre aux Patriots de gagner. Je pense qu'ils vont regretter pas mal de choses, ouais, les Patriots.
Voilà. Après, je termine. Malheureusement, le problème c'est que Bill Belichick autant continue de prouver en défense qu'il reste un grand coach. Mais il y a un moment, ce qu'ils décident de faire depuis le début de la saison en attaque pose quand même question, parce que, alors bien sûr, c'est Matt Patricia, le coordinateur offensif, c'est pas que, enfin, Belichick n'est, mais enfin, à un moment, c'est lui aussi qui l'a nommé, et c'est lui qui continue avec, alors que manifestement, ça ne marche pas. Et à un moment, il me semble, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que être le coach d'une équipe, c'est aussi bien savoir s'entourer, et c'est pas le cas. Enfin,
il y a deux séries offensives de 80 yards qui sont construites, qui vont au bout. Mais ça ne suffit pas pour vous rassurer, si je comprends bien.
C'est trop peu. Pour moi, c'est trop peu. C'est trop et peu. J'ai peur, et j'anticipe encore plus peut-être, mais j'ai peur que les Patriots fassent exactement la même saison que l'année dernière. C'est-à-dire que peut-être se qualifier en play-off, vous en parlerez, mais qu'en play-off, ça sera, l'écart soit immense, qu'il n'y ait pas photo, et qu'on est sur un copier-coller de l'année dernière et une équipe qui n'avance pas, avec un quarterback qui ne semble pas forcément avoir progressé, pour les raisons diverses et variées que Raph a évoquées. Mais c'est une saison quasiment de... Ce serait une saison de perdu. J'anticipe beaucoup, mais je le vois comme ça en tout cas.
Ouais, non, mais c'est pas. Du côté des Dolphins, on sera encore donc dans la course aux playoffs aussi en dernière semaine, mais là aussi, on parlait de dynamique pour plusieurs équipes. Hein. Teddy Bridgewater sort sur blessure, Skylar Thompson rentre, Tua Tagovailoa, on le sait, ne jouera pas le dernier match. Donc ce sera encore Teddy Bridgewater ou Skylar Thompson. Leur jeu au sol a été stoppé, leurs receveurs sont ralentis, leur défense n'est pas élite, donc ça ne peut pas les sauver. On l'a vu sur ce match. Est-ce que c'est les quarterbacks au bout d'un moment, ou est-ce que c'est aussi le système de Mike McDaniel qui commence aussi à être un peu appréhendé par les coordinateurs d'en face, Raphaël ?
Sans doute un peu des deux. Je pense que cette situation au poste de quarterback n'aide pas forcément sur les derniers matchs. T'en faire entrer un pour en remplacer un en cours de match, et puis finalement, une semaine après, ce même quarterback remplaçant est lui-même remplacé en cours de match. Enfin, je pense que tout ça n'aide pas à avoir beaucoup de stabilité et à créer une dynamique, justement, cette espèce de mouvement permanent. Maintenant, comment dire, oui, le système McDaniel, c'est peut-être aussi un peu compliqué. Et 5 défaites de suite, le coach a forcément sa part de responsabilité, que ce soit en termes de leadership ou de coaching et de play call, il a sa part de responsabilité. Donc, à lui de se poser les bonnes questions, clairement.
Lucas.
Non, mais
Lucas, c'est autant pour moi.
Je suis assez d'accord, et pour moi le problème c'est ce jeu au sol, parce qu'ils n'auraient jamais réussi à le mettre en place depuis le début de l'année, et quand le jeu aérien est bloqué, on n'a pas de solution.
Merci à Lucas qui, pour son professionnalisme, en fait, il m'avait fait un signe qui me disait que je pouvais avancer. C'est juste que j'étais en train de regarder parce qu'il y avait des nouvelles sur Damar Hamlin qui tombait, donc j'avais un petit œil à côté. Juste, moi, je ferai un bilan à la fin de l'émission sur Damar Hamlin et ce qui s'est développé. Les Seahawks 23, les Jets 6, c'est fini pour les Jets. La petite revanche de Geno Smith quand même, hein, dont les Seahawks éliminent les Jets de la course aux playoffs dans un match dominé par Seattle. Les Seahawks sont marqués sur la première action du match, ils n'ont jamais été menés, Et on peut dire qu'ils n'ont jamais été inquiétés, même, Raphaël.
Ah, clairement, j'ai eu l'honneur ou le privilège, je ne sais pas quel terme utiliser, de faire le résumé de ce match. Donc, je l'ai regardé avec attention. Non, il n'y a pas eu photo dans ce match. Et les quelques rares fois où les Jets ont peut-être commencé un peu à enclencher quelque chose, ils étaient rapidement bloqués avant la red zone ou un field goal raté. Donc, il n'y a pas eu match. Mais de toute façon... C'est le bilan de ces Jets sur les 5 derniers matchs, c'est qu'ils ne marquent pas de points, quasiment pas de points sur les 5 derniers matchs, et que la défense ne pouvait pas les porter continuellement, et à partir du moment où l'attaque n'avance plus, bah, la saison de New York, qui avait bien commencé, hein, et peut partir en autre boudin, on va dire.
Lucas, les Jets retrouvaient Mike White, finalement ça donne 23 sur 46, 2 interceptions pour lui. Finalement, il a semblé dépassé en plus, malheureusement pour lui, sur ce retour.
Oui, il n'a pas forcément montré ce qu'il nous avait montré depuis les quelques matchs où il avait été titulaire. Et en effet, cette saison qui se finit un peu de manière compliquée, qui avait très bien commencé. Et puis finalement, il y a un peu cet imbroglio au poste de quarterback. Finalement, on ne sait pas vraiment sur quoi ils vont se tourner l'année prochaine. Ils ont gagné quand même relativement quelques matchs, donc ils ne vont pas être dans les dernières places de la draft. C'est vrai que c'est un peu symptomatique d'une saison qui finalement avait très bien commencé. Fini de manière beaucoup plus compliquée. C'est aussi tout à l'honneur d'autres équipes qui ont réussi à passer ce creux. On parlait des Giants tout à l'heure, des Lions qui sont désormais dans la prétention d'aller en playoff. Les Giants y sont déjà. Mais elles ont toutes eu plus ou moins un creux en fin de saison. Certaines ont réussi à redresser la barre, comme les Seahawks. Les Jets, eux, n'ont pas réussi.
Terrible, hein, 5 défaites de suite quand même pour les Jets.
Pardon, je me permets la précision, mais sur ces 5 défaites, c'est 12 points de moyenne, hein, marqués. Donc à partir de là... Bon.
Ah bah oui, mais clairement. Alors qu'ils semblaient vraiment, vraiment sur l'autoroute des playoffs à un moment, et puis finalement, ça s'est écroulé. Donc Seattle, eux, ça revient, parce que tu le disais bien, Lucas, il y a eu un creux, dont des équipes comme Seattle, quand même, qui étaient très, très bien parties. Seattle, qui se retrouve pas tout à fait avec son destin entre les mains, il faudra espérer une défaite des Packers. Mais Seattle, qui s'est repris sur ses standards, c'est-à-dire Kenneth Walker. Alors, il y a une course de 60 yards qui gonfle son total à 133, mais un très bon Kenneth Walker, ils ont quasiment 200 yards au sol, ils ont un Geno Smith qui est propre, et ils ont une défense qui a fait le travail, et on a retrouvé les bons Seahawks, Lucas. Là, on parlait de creux, on a retrouvé ceux d'avant le creux.
Ouais, exactement, et globalement j'ai eu l'occasion de le dire, mais Geno Smith a rarement été mauvais. Il n'a pas toujours été excellent, mais il a rarement été mauvais dans toute cette saison. Il a une saison quand même relativement correcte, mais c'est vrai que c'est souvent autour de lui, et notamment ce jeu au sol qui était un peu absent. Kenneth Walker a été blessé, il n'a pas toujours été à 100% physiquement, mais on le voit quand il arrive à mettre en place ce jeu au sol. Certes, il y a cette course de 60 yards en début de match, mais elle fait aussi du bien, elle met aussi des points d'interrogation dans la tête des défenseurs, et donc du coup ça permet de développer le jeu d'attaque. Quand la défense derrière est plutôt solide, ça fait une équipe complète qui va pouvoir prétendre au play-off jusqu'au dernier match, et ça aussi en début de saison on avait du mal à le voir venir.
Lucas, Raphaël, j'ai du mal aujourd'hui aussi. Raphaël, toi qui as donc vu ce match en entier, quand tu as regardé les Seahawks, tu revoyais aussi cette équipe plus fringante de début de saison, c'est rassurant?
Ouais, on s'en rapprochait en tout cas, et on se rapprochait surtout, j'ai trouvé, défensivement de la bonne période des Seahawks, à un moment où ils enchaînent 4-5 matchs, de 4-5 victoires de mémoire en milieu de saison à peu près, donc c'était la bonne nouvelle. Offensivement, finalement, c'est pas si loin des standards qu'ils ont eu un peu toute la saison, je trouve. Ils ont, comme Lucas l'a dit, ils ont eu cette espèce de constance, donc c'est la bonne nouvelle. Après, on verra pour la suite.
On passe aux Chiefs, 27, Broncos 24. On a failli avoir un des résultats les plus fous de l'année. Mais les Chiefs ont bien stoppé Russell Wilson et Denver à 1 minute 20 de la fin sur 4e tentative. C'était, je le rappelle évidemment, le match qui opposait des Broncos avec un nouveau coach, avec un coach intérimaire. Et un Russell Wilson revigoré à 26 sur 38, 222 yards, un touchdown, une interception. Est-ce qu'on a vu la renaissance de Russell Wilson? Est-ce que c'est reparti, Raphaël? Toi qui as été longtemps son supporter numéro 1.
C'est vrai, c'est vrai. Je suis pas certain encore. Hein. Ça demande quand même un peu à voir, parce qu'il y a encore une interception bien bien laide, des lancers vraiment pas dans le rythme, pas précis. Donc j'en suis pas certain. Maintenant, forcément, il faut essayer de repartir de ça pour la suite. Donc à voir, mais... Je crois que de toute façon le choix du coach, c'est ce qui fera la différence, on va dire, ou non l'an prochain.
Lucas, est-ce qu'il ne faut pas mettre au crédit de Jerry Roseberg, le coach intérimaire, que Oui, il y a eu des erreurs, mais au moins ils ont tenté des choses, ce qui n'avait plus l'air de faire quand même depuis longtemps avec Nathaniel Hackett. Il y a eu du Wilson au sol, il y a eu des play action, il y a eu des choses en profondeur. C'était pas facile parce qu'il y avait un bon pass rush en face. Ils ont tenté quand même.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'ils ont tenté. Tu parlais du sol. Je crois qu'il n'y a que 27 yards ou une trentaine de yards, mais il y a eu tout de même des play action. Il y a eu cette dissuasion au sol, ou en tout cas encore une fois j'en parle, mais le point d'interrogation dans la tête des défenseurs, qu'il n'y avait plus beaucoup. Ça faisait un petit moment qu'on voyait plus Russell Wilson aussi courir. Et c'est vrai que voilà, tenter des choses. De toute façon, il restait deux matchs avant ce match-là. Ils étaient annoncés perdants sur les Chiefs, je sais pas contre qui ils jouent la semaine prochaine, mais ça doit être certainement une équipe qui aura certainement une cote plus faible que la leur. Donc c'est vrai que voilà, autant tenter. Le coach intérimaire, lui, peut-être pas voué à rester, donc autant essayer, et puis essayer de remettre en confiance Russell Wilson, tenter de voir des choses qui peuvent marcher, et c'est pas loin d'avoir fonctionné, donc pourquoi pas, ouais.
Raphaël, on parlait des intérimaires l'autre jour. C'est vrai qu'il y a ce facteur-là. Tu te dis, bon, moi, j'ai rien à perdre, on va me virer de toute façon. Donc, t'es plus offensif.
Ouais, sans doute.
on va parler des Chiefs dans ce cas-là. Denver qui a quand même été aidé, il faut le dire, par les équipes spéciales de Kansas City. Un retour de punt échappé par Kadarius Toney, un field goal manqué. Et pourtant, Kansas City gagne avec un Mahomes à plus de 300 yards. Ils ont l'air imperturbables, les Chiefs, en cette fin de saison. Il y a la défense aussi qui monte en puissance. Chris Jones, Carl Aftis, qui est très bon. Ils sont plus sereins grâce à la défense ou grâce à l'expérience? Parce que encore une fois, ils n'ont pas l'air de forcer. Avant, c'était vraiment des gros cartons, etc. Là, ils gagnent comme ça, ils passent les trucs. Lucas.
Ouais, c'est un peu le verre à moitié plein quand même.
Je suis très positif.
Ouais, non, mais parce que si on regarde factuellement, ils passent à une quatrième tentative d'être surpris par des Broncos qui n'ont gagné que 4 matchs dans la saison. Donc oui, ils sont sereins. C'est vrai que ça gagne, ça continue de gagner, c'est l'essentiel. Maintenant, voilà, il faut pas faire ce genre de choses en équipe spéciale en play-off. Il faut pas. Il y a toujours Patrick Mahomes, il y a toujours une attaque incroyable qui marque 27 points à une défense des Broncos qui quand même avait montré cette saison qu'elle était solide. Mais je veux dire, c'est toujours cette question de un peu de nonchalance, désinvolture, mettez le terme que vous voulez, mais avec les Chiefs, c'est toujours une interrogation. Ils sont très forts, ils sont certainement meilleurs que 95% de la ligue, mais parfois ils se mettent un peu au niveau de leur adversaire.
Raphaël, t'es inquiet toi pour sur ce match en tout cas ?
Inquiet, je sais pas, j'aurais toujours tendance à être un peu comme toi sur les Chiefs. Il y a un peu d'expérience, et puis j'ai quand même le sentiment que dans un match, ils seront jamais totalement perdants ou partiront de très loin parce qu'il y a Patrick Mahomes, parce qu'il y a Andy Reid, parce qu'il y a un système qui leur permet de trouver beaucoup de solutions pour s'en sortir, même quand c'est un peu plus compliqué. Donc je sais pas si c'est de la suffisance, je sais pas si c'est un manque de force et qu'ils ne sont peut-être pas aussi forts qu'on peut le croire, peut-être. Mais voilà, il y a Patrick Mahomes. Par contre, peut-être, en vrai, on en parle rarement, mais moi, mon inquiétude, s'il devait y en avoir une sur les Chiefs, c'est plutôt du côté du kicker Butker, qui avait été bon jusque-là, mais qui, cette saison, est à 73% de réussite au field goal, pire pourcentage de la ligue. Attention, dans un match de play-off, un field goal raté ou deux, c'est quand même... tu peux vite le perdre, et ça peut aussi te mettre dans une position où tu dois tenter des quatrièmes, où tu dois tenter des trucs un peu plus risqués, parce que t'as pas confiance en ton kicker, donc attention là-dessus, c'est un truc auquel on s'attendait pas forcément, mais ça peut te jouer un mauvais tour.
Dans l'ensemble, les équipes spéciales ont l'air d'être un peu leur point faible, de toute façon, ça me semble même assez clair, c'est pas qu'un peu. J'ai juste une étrangeté statistique, je dois avouer que j'ai pas vu ce match en entier, et je vois que Patrick Mahomes a une réception pour 6 yards. Mais il n'y a aucun autre lanceur dans les stats. Donc, qui lui a lancé cette passe?
En fait, il a une passe qui est déviée par un lineman Denver et lui-même la rattrape et court après.
D'accord. C'est ce que je soupçonnais, mais je préférais vérifier parce que je me disais, il s'est passé un truc incroyable. Il l'a lancé, il a couru hyper vite, 6 yards plus loin, je ne sais pas.
S'il allait jusqu'à faire ça serait assez ouf. Hein.
Là où je crois que Patrick Mahomes avait eu exactement la même chose, il s'est vite empressé de taper le ballon par terre. Il en voulait pas de la balle. Mac Jones. Je parlais des Patriots tout à l'heure. C'est vrai que lui, Patrick Mahomes, il a pris le ballon et il a décidé de courir. Il y a certains quarterbacks qui décident vite de l'envoyer par terre et de considérer passe incomplète et on passe à autre chose rapidement.
De mémoire, Marcus Mariota marque un touchdown comme ça en playoff il y a quelques années avec les Titans.
Oui, tout à fait.
Sur une auto-réception. Les Chargers 31, Rams 10. Les Chargers qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire démolir des Rams en fin de course. Ils ont même mis leur titulaire sur le banc à quasiment 12 minutes de la fin, donc plutôt tranquille. Justin Herbert, Austin Eckler, Mike Williams, tout le monde a plutôt bien joué du côté des Chargers. Tout a fonctionné. Est-ce qu'on tient justement un peu cette montée en puissance de Chargers qu'on trouvait un petit peu parfois décevant, parfois moyen. Là, on a Eckler à 122 yards au sol avec deux touchdowns. On a Mike Williams avec 94 yards à la réception et des grosses réceptions. Herbert très propre. Raphaël, est-ce qu'ils sont en train de monter en pression au bon moment peut-être ?
Écoute, j'ai envie de te dire que ça dépend un peu de si t'es optimiste ou pessimiste.
Moi, je suis optimiste en ce moment.
Alors, côté optimiste, je te dirais oui parce que c'est quand même 4 victoires de suite. Ils sont pas tombés dans le piège qu'ils connaissaient ces dernières saisons à se rater et je trouve notamment défensivement ça commence à vraiment élever le niveau de jeu, ce qui est pas inintéressant au moment d'arriver en playoff. Après, si on veut être un peu pessimiste, ces 4 victoires sont en même temps contre les Dolphins, les Titans, les Colts et les Rams. Alors certains te diront que est-ce que ça veut dire grand chose? Je sais pas. On va vite le voir en playoff, hein. De toute façon, ça va être maintenant c'est acquis donc.
Lucas, vers à moitié vide ou à moitié plein?
Bah écoutez messieurs, je vais pas vous surprendre, mais moi je vais être un peu entre les deux. Parce que franchement, en fait pour moi il y a un point positif, un point négatif à retirer de ce match-là, et il est au sol, les deux sont au sol. C'est-à-dire que régulièrement le jeu au sol n'avait pas toujours été très bon en attaque, et là il a été bon. Tu as cité les statistiques de Austin Eckler, et franchement quand il y a un jeu au sol qui marche, ça laisse de la latitude et ça donne une équipe assez complète, et ça donne une attaque surtout qui peut être très compétitive. Et puis le mauvais point, c'est de l'autre côté, c'est un peu une habitude pour les Chargers, mais je les ai trouvés très mauvais ou en tout cas très moyens sur leur défense au sol. Alors ils ont tenu certes parce que après les Rams avaient lâché, mais j'ai trouvé les Rams être capables de faire des choses au sol que en playoff il faudrait pas laisser l'équipe adverse faire ce genre de choses là. Donc voilà, ça sera entre les deux pour moi messieurs.
6,4 yards de moyenne pour les Rams clairement. Et moi je pensais juste que voilà, ils peuvent pas résister à ce diable de Cam Akers qui est relancé, hein. C'est vraiment c'était le facteur X qu'on n'a pas vu venir, hein, Cam Akers sur la fin de saison des Rams. Clairement il était au placard il y a encore quoi 5 semaines. Bon, les Rams 277 yards, un petit Baker Mayfield avec 132 yards à la passe. C'est quoi, c'est toujours ça de gagner, c'est le retour de Akers, la bonne nouvelle de fin de saison pour l'année prochaine. Ils se disent on a peut-être un coureur, voilà, c'est ça.
Je sais même pas s'il faut tirer des enseignements, c'est là certainement c'est rideau et vacances.
Allez, on passe. Bon, de toute façon là vous allez voir, il y a plus beaucoup d'enseignements à tirer. Il nous reste deux matchs et c'était des matchs sans enjeu. Alors vraiment sans intérêt sportif total, le Texan Jaguars 3 pour les Texans, 31 pour les Jaguars. Les Jaguars pour lesquels tout dépend du dernier match de la saison régulière, ils ont choisi quand même de faire jouer tous leurs titulaires à fond. Ils ont très bien joué, ils menaient 28-0. Dans le troisième quart-temps, les titulaires sont sortis pour la fin du match. C'était l'échauffement parfait pour le dernier match de la saison régulière, justement, qui pourrait les envoyer en play-off. 152 yards pour un Trevor Lawrence à 17 sur 21. Pas de touchdown, mais une interception. Travis Etienne à 108 yards. Derrière, on a distribué un peu le ballon. Bon échauffement, non ? Moi, j'ai trouvé que c'est quand même, c'était important qu'il joue, Lucas, c'est Jaguars.
Oui, je prends la parole, je me permets, parce que moi, j'ai eu ni l'honneur ni le privilège de faire le résumé de ce match-là. Et du coup, en effet, aucun enjeu, mais en tout cas, les Jaguars se sont rendus le match facile. Ils gagnent ce match-là, ils arrivent à reposer leur titulaire. Travis Etienne est sorti à la mi-temps, Trevor Lawrence est sorti au bout de deux quarts temps et demi, et ils avaient déjà le match en main. Ils ont pu faire jouer un peu tout le monde. Ils ont pu aussi faire jouer des joueurs qui n'auront pas deux semaines totales de repos, donc ça leur permet de rester dans le rythme et d'attaquer ce match la semaine prochaine, hyper important et hyper décisif. Mais voilà, ils se sont rendus la tâche facile, et pour les Jaguars, si on se rappelle d'où ils viennent, c'est pas forcément quelque chose qu'il fallait considérer d'acquis.
Alors, je poursuis avec toi, je me permets, parce que tu le disais, c'est toi qui as couvert le match. La défense, quand même, c'est la défense d'ailleurs qui marque le touchdown du 21-0 sur un ballon volé. C'est le deuxième match de suite où ils ne prennent que 3 points. Est-ce que tu as vu une défense? Alors, évidemment, toute proportion gardée, ils jouent Houston. Mais est-ce que tu as vu une défense qui commence à ressembler à une défense qui pourrait être gênante, même pour des grosses équipes?
Oui, j'ai vu ça parce que, certes, c'est Houston, certes, c'est l'une des pires équipes de la NFL. Mais rappelons-nous quand même que les Texans sortaient d'une victoire, sortaient aussi de deux matchs où ils avaient embêté les Cowboys et les Chiefs, c'était pas une équipe qui avait lâché depuis un mois et demi et qui jouait en roue libre. C'est une équipe qui arrivait avec l'ambition de faire des matchs accrochés. Et là, ils sont dominés totalement, et notamment de ce côté du terrain-là, avec Davis Mills et Jeff Driscoll, toujours ce duo de quarterback qui a pu faire quasiment très peu de choses, parce que le pass rush était bon, parce que la défense a été bonne, les linebackers sont plutôt corrects. Donc en effet, cette défense-là, elle commence à prendre un peu corps, elle commence à être bien en positif et être bien concentrée dans ce qui arrive. Ça va être utile la semaine prochaine et potentiellement la semaine d'après. Donc c'est vrai que c'est bon signe pour les Jaguars.
Raphaël, est-ce que ça te plaît là, ce qui se monte avec Trayvon Walker, avec Josh Allen et compagnie?
Oui. La dynamique, la progression est manifeste. Donc ça me plaît. Je pense qu'ils vont... spoiler, je pense qu'ils vont accrocher les playoffs, donc prendre aussi de l'expérience à ce niveau-là. Donc ouais.
Est-ce que tu veux parler des Texans peut-être?
Non, franchement, désolé, j'ai pas envie de faire le type qui veut partir, mais il y a plus grand-chose à dire. Non. Enfin voilà.
Oui, clairement, je pense qu'on va pas. On nous en voudra peut-être pas de pas disserter. C'est une équipe qui malheureusement n'a embêté personne. Tu le disais, Lucas, ils avaient embêté quelques équipes avant, mais il y a aussi des matchs où ils perdent logiquement. C'est une franchise qui est quand même plutôt en ruine. On fera peut-être une émission spéciale sur eux. C'est quasiment un football manager. Hein, là, il y a tout à reconstruire. Donc on peut lancer un mode franchise et faire des podcasts spécialement dédiés à ça. Mais il est temps que la saison se termine aussi pour eux. On termine avec les Falcons et les Cardinals. 20-19 pour Atlanta. Victoire sur un field goal à la dernière seconde pour Atlanta grâce à une bande de rookies qui progresse bien, mine de rien. C'était vraiment le seul intérêt de ce match. Celui-là n'avait vraiment aucun enjeu sportif. Les Desmond Ridder, les Tyler Allgeier, les Drake London, ils sont tous rookies. C'est plutôt encourageant pour le futur, Raphaël, de les voir être productifs. Allgeier, il a passé les 1000 yards au sol. C'est le rookie qui a le plus de yards au sol cette saison. Alors évidemment, il y a eu les blessures, hein, Brice Hall et Damon Pierce. Mais voilà, Ridder, tout ça, ça prend de l'expérience.
Ouais, effectivement, Ridder, Allgeier prennent de l'expérience. On voit quand même que Drake London, pareil, il y a beaucoup plus de réceptions depuis que Ridder a été titularisé. Enfin, il fait à chaque fois, c'est globalement là sur ce match, il a que 5 réceptions, mais ceux d'avant, il était à 7, enfin, ce qui était son meilleur total de la saison sur un match. Donc on sent qu'il y a une vraie connexion entre les deux. Bon, ça, voilà, après, ça reste encore poussif, tout ça. C'est quand même pas une victoire éclatante face à des Cardinals qui jouent je ne sais plus quoi depuis plusieurs semaines maintenant. Mais
c'était David Blow, hein, le quarterback, il faut repréciser.
Même pas DeAndre Hopkins. Enfin, je pense que J.J. Watt doit être ravi de finir sa carrière comme ça. Mais passons. Oui, il y a un peu de progrès, voilà, après.
Bon. Dépité. Alors pour le coup, c'est moi qui me suis retrouvé sur ce match-là. Je vais pas mentir, je l'ai suivi d'un œil et demi parce que je regardais un peu ce qui se passait à côté. J'avoue que je prépare autant l'émission que le résumé de match sur ce coup-là parce que bon, c'est pas que j'étais pas intéressé, mais voilà. Oui, Desmond Ridder montre des petits signes de progrès. Oui, tous ces rookies jouent bien. Donc tant mieux. Je trouve toujours qu'Arthur Smith est quand même un coach qui gère plutôt bien ce qu'il a, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Ridder prend qu'un seul sac. Tout ça, c'est du positif pour moi. Après, tu l'as dit, en face, il y a David Blow. Il y a une équipe qui est en roue libre totale. Il y a plus grand monde. Bon, J.J. Watt prend son 10e sac de la saison. Il fait encore une saison à 10 sacs, ce qui est quand même merveilleux pour lui, vu le contexte, parce qu'il joue... Il joue au milieu de plus grand chose. Lucas, est-ce que tu as vu un truc, toi, dans ce match-là qui était intéressant pour le présent ou le futur?
Oui, on parlait des Falcons, Raph l'a dit, je pense que c'est ça à peu près le seul truc, parce que pour moi, tu parlais de football manager pour les Texans, je pense que pour les Cardinals, ça sent le grand ménage. Et du coup tout à reconstruire, ils sont un peu l'étape d'avant les Texans, où ils peuvent déjà reconstruire. À mon avis, là il va falloir faire un grand ménage et reconstruire après avec Kyler Murray ou pas, avec le coach ou pas. Toutes ces questions là vont être posées sur la table, à mon avis, dans quelques semaines. Mais voilà, c'est vrai que les Cardinals, il n'y a pas grand chose à en tirer, et les Falcons, ben au moins il y a des pierres sur lesquelles s'appuyer. Il va falloir construire maintenant, mais c'est à peu près tout ce qu'on a vu. Et moi, j'ai dû le regarder que d'un œil. Le demi n'y était même pas sur ce match-là, je dois avouer.
Ah bah si vous avez regardé le Red Zone, il se peut que vous n'étiez pas au courant que ce match a eu lieu, hein, parce que j'avais un œil sur le Red Zone aussi. On l'a pas vu beaucoup. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 567 du podcast Touchdown Actu. Je le disais juste, il y a eu des petits développements pour Hamlin. Alors, pas tant sur sa santé, hein, qui est toujours stable. La Ligue a juste annoncé que le match ne serait pas reprogrammé au cours de la semaine. Donc voilà, on ne sait pas encore s'il sera reprogrammé à un autre moment, s'il pourrait y avoir un décalage, etc. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, bon, en tout cas, pour l'instant, ce match n'aura pas lieu. Et pour l'instant, le planning de la semaine 18 ne bouge pas. Donc, ce qui voudrait dire que ce match devrait peut-être être annulé, si je comprends bien. En tout cas, ça a l'air d'en prendre le chemin. Voilà, encore une fois, tdactu.com pour les dernières mises à jour. On vous remercie donc d'avoir écouté cet épisode. On vous remercie aussi, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des commentaires et tout ça sur les applis de podcast. Ça nous aide pour le référencement, pour monter dans les classements. On vous remercie de nous soutenir sur Tipeee aussi. Guillaume Servos, Carlos Dachixa, Alicia, Julien Brossillon, Ben C, Pixix, cette semaine se sont ajoutés à la liste. Il y a des nouveaux sous ouvert si vous voulez aller jeter un œil sur le Tipeee. On vous remercie, on a encore fait une très belle année 2022 sur le Tipeee, et ça va permettre évidemment de payer les personnes qui sont devant moi là, par exemple, pour les émissions, les déplacements, les repas, le repas de l'équipe annuel, enfin voilà, tout ce genre de choses là. Donc n'hésitez pas à aller nous soutenir sur Tipeee. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, TikTok, pardon, @TDActu, Instagram, @TDActu en entier. Les comptes perso, @Raphaël_TDA pour Raphaël et @Elvola pour Lucas sur Twitter, @Alamati pour moi-même. Et on vous rappelle encore une fois que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Merci beaucoup, messieurs. Et on se retrouve dès demain avec Victor Roulier. On vous fera la présentation complète des matchs de la semaine 18. À très bientôt. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklass Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.